bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, présentée par Frédéric Gournay. Pour ce premier numéro de la saison, je reçois Victor Dumiot, romancier, pour son deuxième ouvrage, Lola va mourir, paru aux éditions Calman Lévy. Bonjour Victor Dumiot.
Bonjour Frédéric, c'est un plaisir de retrouver les ondes d'Aligre FM.
Et merci Victor. Après Acide, qui racontait dans le détail le destin dramatique d'une jeune fille défigurée à l'acide par un inconnu dans le métro, vous continuez votre exploration du mal avec Lola va mourir, qui narre une autre tragédie, celle de Lola, qui tente de recommencer sa vie à 40 ans, en quittant tout avec son plus jeune fils, et qui va rencontrer Franck, qui sort, lui, de prison, et qui veut, lui aussi, croire à une seconde chance. Hélas, ce n'est pas un nouveau départ qui s'offre à eux, mais une guerre d'une violence archaïque qui semble ne pas avoir d'âge ni de fin. Je vais être très direct avec vous, Victor. D'où vous vient ce goût du malheur et cette fascination pour la violence?
C'est une question qu'on me pose de plus en plus souvent. Et je me rends compte qu'en effet, ça devient louche à force. Je pense que c'est... En fait, j'ai plusieurs éléments de réponse à ça. Il faut que je poursuive ma thérapie aussi, évidemment. Peut-être que j'en aurai plus à l'avenir. Mais néanmoins, je crois que un de mes premiers rapports à l'art et notamment au cinéma... C'était une scène de violence, je m'en souviens très bien de cette scène. C'était un passage de La Guerre du Feu, un film de Jean-Jacques Hano, qui est un film très violent, mais sur des hommes préhistoriques qui se battent pour récupérer le feu. Et je me souviens très bien, enfant, d'avoir vu une main tranchée par une pierre. Je ne sais même pas si cette scène existe réellement, en tout cas c'est comme ça que je me la représente. Une scène de combat et d'avoir ressenti un choc. Je devais avoir 3 ans, je pense, 3-4 ans, et d'avoir ressenti un choc très profond en voyant ça, et vraiment d'être au bord de l'évanouissement, et d'avoir été longuement traumatisé, d'avoir ensuite cherché à revivre cette expérience très bizarre, et donc de m'être passionné pour le cinéma violent. Et c'était devenu presque un sketch, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans ma vie où je n'aimais que les films violents. Je regardais les listes sur Internet des films interdits aux moins de 16 ans et je les regardais un par un, en disant bon, ça c'était un peu moins violent que celui-ci. Et donc ça, c'est une fascination très enfantine, je dirais, pour la violence. Et au fond, qui est liée à ce qu'on éprouve. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience. En fait, quand on est face à une situation de violence, c'est quelque chose de très bizarre dans notre corps, en fait. Dans la manière dont le corps se contracte d'un coup, la manière dont on se met à trembler. Chacun a des réactions très différentes vis-à-vis de la violence, mais il y a quelque chose de physique qui se produit. Et je crois que cette sensation-là, elle m'intéresse beaucoup. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, la violence est survenue dans ma vie de manière assez récurrente. Sans que je la réclame, sans que je l'appelle, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, la violence, c'est une irruption, en fait, de quelque chose qu'on n'a pas souhaité. Et j'ai souvent été victime, en fait, de cette violence à l'école, au sein de ma famille. On aura le temps de développer, puisque Lola raconte aussi un peu cette histoire de la violence, qui est une histoire plus intime. Et donc je forcément, en fait, face à tout ça, j'ai aussi vécu en Guyane où j'ai assisté à des scènes de violence assez extrêmes par moments, que je raconte d'ailleurs dans La Nuit Cayenne, qui m'ont impressionné, en fait, qui étaient des moments où la vie bascule réellement et où tout nous échappe et on a peur tout simplement de mourir. Donc voilà, je pense que c'est essentiellement pour ça que la violence m'intéresse. Elle m'intéresse aussi parce que forcément, en fait, s'intéresser à la violence, s'intéresser au mal. Moi, la question du mal, elle m'obsède. D'abord parce que je pense que dans ma vie, j'ai pu faire du mal. J'ai subi beaucoup de mal, mais j'ai pu en faire aussi. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est cette ambivalence-là chez les êtres humains. Cette propension à vouloir faire le bien, enfin à vouloir faire le meilleur, en tout cas on est éduqué pour ça, on est civilisé, on va dire. Et cette tendance, ces moments de glissement, où on finit par faire du mal. Dans la mesure où on m'a fait du mal, j'essaie de comprendre en fait comment ceux qui m'ont fait du mal ont pu approuver, consentir à ce mal-là. Et je crois, Alors là, c'est là très pessimiste et très. Mais je crois qu'en fait, il y a une forme d'optimisme en fait dans cet intérêt pour le mal. C'est qu'au fond, et je pense que c'est aussi pour ça que ce qu'on appelle les monstres, mais on pourra en discuter. Je déteste cette notion de monstre. C'est pour ça que ça m'intéresse autant. C'est que je cherche la bonté. J'essaie de m'accrocher à des moments d'humanité chez les gens, y compris les gens les plus repoussants. C'était le cas dans Acide avec Julien, c'est le cas avec Franck dans Lola.
Pensez-vous que la brutalité s'apprend, que la violence est héréditaire?
Je pense que c'est une question sans fin. La brutalité, je ne sais pas si elle s'apprend. Je pense qu'en effet, quand on est éduqué brutalement, quand chaque rapport humain passe par un rapport de force, quand on est privé de son choix et qu'on apprend que en fait, il n'y a pas de liberté et qu'il faut imposer sa volonté aux autres, quand on est éduqué par des tyrans, par un tyran en l'occurrence, ce sont souvent des hommes, les pères sont souvent des tyrans, parce qu'ils sont éduqués comme ça aussi, ils ont été construits en tant que tyrans, alors, pas tous les pères évidemment, et fort heureusement. Mais oui, je pense que quand dans sa vie, chaque interaction, chaque expérience vécue est passée par un rapport de force, par une brutalité, par une brutalisation, on finit par devenir brutal. Après, ça pose quand même la question de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que on peut avoir été victime de violences et ne pas répéter ces violences-là. Mais ça suppose un travail. Et ce travail, il est très dur. Et c'est vraiment la responsabilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens et dire « bon, bah, il a été mauvais ». Il ou elle, d'ailleurs, a été mauvais parce qu'ils ont subi ces violences-là. Ça explique. Évidemment que ça explique. On a été éduqués, on a absorbé une forme de brutalité. Moi, c'est mon cas. J'ai été brutalement éduqué. Mais néanmoins, ça n'effacera jamais le mal qu'on reproduit. En fait, à ce moment-là, on s'engage en tant qu'être humain en se disant « bon, peut-être que finalement cette brutalité-là, je peux trouver des voies pour la désamorcer, pour l'adoucir, des voies plus tendres, au fond. »
C'est la grande phrase de Sartre qui demande « qu'as-tu fait de ce qu'on a fait de toi ?»
Oui, c'est exactement ça.
Alors au départ, Lola, c'est une fille gay, libre, indépendante. On l'imagine mal tombée sous l'emprise d'un homme violent, tellement bizarre, étonnante, une femme libre qui ne rêve que de coups d'éclat et vomit l'ambition pavillonnaire, écrivez-vous. Donc cette femme, est-ce qu'on lui fait payer sa liberté, son insouciance, son inconséquence?
Bah, en fait, Lola, c'est une femme donc, qui a une quarantaine d'années, c'est une mère, elle est mère de deux enfants. Je pense que ça a été une femme libre, ça a été une femme très insouciante, elle l'est moins 20 ans plus tard, disons, entre ses 20 ans et ses 40 ans, elle l'est moins quand on la retrouve sur cette île, juste avant son départ. Elle l'est moins parce qu'évidemment, elle mesure en fait l'écart entre ce qu'elle a rêvé être, ce qu'elle espérait être plus tard, adulte, et ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire, en fait, comme sa mère, une femme un peu au foyer, un peu soumise aux ambitions d'un mari tyrannique et violent avec elle, une mère un peu dépassée par ses enfants, qu'elle ne comprend pas trop. Sans ambition, en fait, elle en est arrivée même à un niveau de... d'écrasement, qu'elle a l'impression d'être malade, d'avoir perdu la tête. Et moi, c'est vraiment cette chose-là qui m'intéressait, en fait, justement, cette violence un peu plus quotidienne, qui va la pousser à s'en échapper. Et en effet, c'est le retour de la liberté, en fait. Elle retrouve celle qu'elle a été à ce moment-là, et elle redevient cette femme un peu plus libre, un peu plus insouciante. Alors, son insouciance, c'est de façade, parce que Lola, en tout cas, le roman, j'ai voulu aussi le construire comme un roman un peu social, et montrer la difficulté que ça pouvait être pour une femme, pour une mère précaire, de reconstruire sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait pour que cette femme-là ne puisse pas reconstruire sa vie. Les bailleurs lui demandent « mais alors, bon, vous n'avez pas de garant, votre mari, vous ne gagnez pas d'argent », parce qu'elle reprend des études. Bah, évidemment, tout le monde la regarde comme une folle, et elle est jugée comme ça, en fait, en tant que telle. Comme une mère indigne, en tout cas.
C'est une mère célibataire, elle est seule avec son fils.
Mère célibataire, seule avec son fils, elle a quitté une île paradisiaque. Pourquoi? Et elle porte le prénom de Lola, donc, qui est un peu le prénom de l'adolescente éternelle. Donc vraiment, on la regarde de haut, et malgré ça, elle conserve cette espèce de sourire d'empathie d'insouciance, en fait, enfin, en tout cas d'innocence, plutôt, qui fait qu'elle pense que les choses vont finir par s'arranger. Voilà. Elle y croit très fermement. Et c'est pour ça que la rencontre avec Franck, qui est un homme qui sort vraiment d'un univers complètement opposé, d'un autre monde, mais tellement éloigné qu'elle ne comprend pas en fait qui il est. Elle ne voit pas en fait, c'est tellement une créature bizarre qu'elle ne peut qu'entrer dans un rapport empathique avec lui et se dire, bon, peut-être que finalement cet homme, un peu comme un animal un peu blessé qu'on viendrait recueillir, peut-être qu'il est bon.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman avec Victor Dumieux qui nous parle de son dernier livre Lola va mourir, paru audition Calman Lévy. Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre ?
Avec grand plaisir, Frédéric. Je vais vous lire un extrait qui est au début du roman. Et pour contextualiser un peu cette scène, Lola est partie de l'île sur laquelle elle vit. Elle a abandonné son mari, elle a quitté son mari. Et elle a laissé son fils, le plus grand, sur l'île. Et nous sommes le soir, après le départ de Lola. Et le mari, peiné, déchu, l'homme déchu, blessé narcissiquement par cet abandon, ouvre une première canette de bière, s'assoit sur la terrasse et puis va parler à son fils pour lui expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je cite, c'est un monologue. Alexandre s'est mis à parler. Quelle espèce de grosse salope. Mais tu te rends compte? De toute façon, elle n'en a jamais fait qu'à sa tête. Et elle pense que je vais l'attendre. Mais quelle conne. Bon Dieu de conne. Qu'elle se barre puisque c'est ce qu'elle veut. Puisqu'elle n'espère que ça depuis des années. Je le vois bien avec son regard en coin. Toujours à me juger. 20 ans. On n'est jamais trop prudent. On croit que c'est pour la vie. On se promet que c'est pour la vie, mais ça ne se passe jamais comme ça. Mais qui croit encore à ces conneries de couple? On plonge tous la tête la première, mais c'est de la boue. Tu veux un conseil, Nicolas? T'approches pas de l'amour. L'amour, c'est de la merde. C'est bon qu'à te faire du mal au cœur. Sers-toi des filles, pour assouvir tes besoins. Utilise-les comme un trou, comme un Kleenex. Tronche-les autant que tu veux, mais ne va pas plus loin. Ne t'engage pas sur cette pente dangereuse. Une bonne relation, c'est une heure sur un lit. Ces connasses ne méritent rien de plus. On devrait tous être précoces juste pour les faire chier. Les condamner à la frustration. Putain, on va serrer les coudes, mon petit Nicolas. Tous les deux, on va être bien. Des vacances. Enfin des vacances libérées de cette connasse, de cette grosse salope de pute de truie bonne à foutre au chenil. Elle me fait ça à moi. Bon sang de bon sang. Et ça continue sur...
Donc elle quitte cet homme qui effectivement exerce une forme de violence, mais qui n'est pas comparable à ce qu'il attend quand elle rencontre Franck, qui lui sort de prison. Alors, comment vous avez construit, entre guillemets, le personnage de Franck? Est-ce que vous êtes renseigné, documenté sur l'univers carcéral, le milieu de la réinsertion, le travail des juges et des auxiliaires de justice?
Alors, deux éléments de réponse. Déjà, en fait, la violence d'Alexandre, paradoxalement, moi, je la trouve tout aussi effrayante que la violence de Franck. Elle est plus commune. Dans ce monologue qui se poursuit, qui est assez long, en fait, moi, ce que je voulais montrer, c'était au fond le grotesque, en fait, de cette langue, de cette haine de la femme. Parce qu'en fait, Alexandre se révèle non pas seulement mari blessé ou triste, désespéré parce qu'il vient d'être quitté, ce qu'on pourrait très bien comprendre, mais simplement, il va réactiver, en fait, des arguments, enfin, un lexique très misogyne, c'est-à-dire que la femme est immédiatement réduite à un corps qu'on devrait fourrer, elle est animalisée, voilà, enfin, en fait, elle n'a pas de conscience propre. Si elle est partie, c'est parce qu'elle est stupide et de toute façon, elle mériterait de se faire baiser par d'être victime de d'autres violences.
Et il enseigne ça à son fils.
Et il enseigne ça à son fils. Il lui transmet. On parlait de brutalisation tout à l'heure. C'est vraiment de la brutalisation transmise. Voilà. Apprends à détester ta mère. Et donc pour moi, cette violence, elle est vraiment intéressante. Alors évidemment, Alexandre, contrairement à Franck, n'est pas aussi développé. Et donc il y a plein de choses qui expliqueraient, qui permettraient de comprendre un peu mieux d'où vient la violence d'Alexandre. Je précise par exemple qu'Alexandre est un garçon qui a vu son père mettre un fusil dans la bouche de sa mère quand il avait 10 ans. Donc en termes de transmission, encore de brutalité, on est voilà. Et c'est l'histoire des pères, moi, qui m'intéresse aussi. Comment cette violence circule par génération? Comment est-ce qu'elle elle diminue un peu? Bon, voilà, petite parenthèse pour pour conclure là-dessus, c'est que vraiment moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre un peu en parallèle ces deux violences, c'est-à-dire une violence un peu plus veloutée, on va dire, un peu plus banale, en fait, malheureusement.
Plus sournoise.
Plus sournoise, plus rationnelle, au fond, plus froide. Celle d'Alexandre, qui est vraiment dans le contrôle, et, etc., dans la tyrannie, et celle de Franck, et celle de la force, en fait, qui est une violence qui ne se connaît pas elle-même, au fond, une force qui ne se connaît pas elle-même, et qui est beaucoup plus instinctive. En fait, c'est une habitude, c'est un mode opératoire, c'est un mode de vie. Franck, c'est un homme qui a grandi, c'est un gamin de la DAS. Et donc là, je vais pouvoir répondre enfin à ta question. Oui, je me suis renseigné sur plusieurs plusieurs parcours en fait de sortie de prison. Après, encore une fois, moi je ne voudrais pas qu'on croie que mon regard sur les sorties d'écrou, c'est Franck. Franck n'est pas un portrait universel de personnes sortant de prison. Et d'ailleurs, j'étais très touché en lisant les témoignages de ces individus par leur humanité. J'en ai rencontré quelques-uns, j'étais touché en fait par leur tendresse et la manière dont ils s'étaient, en quelque sorte, ils étaient entrés dans un parcours de rédemption, d'amélioration d'eux-mêmes. Et c'était très désarmant de voir ces grands gaillards parler en fait de tendresse, d'amour, de l'autre, etc. Certains étaient devenus très religieux d'ailleurs. Donc c'est pas ça. Au fond, la prison dont sort Franck, et même Franck lui-même, c'est un peu une métaphore, une allégorie, c'est-à-dire que c'est la prison de la vie. Enfin, c'est Franck, pour moi, c'est un individu un peu hybride, en fait. On ne sait pas trop d'où il sort. D'ailleurs, il n'a pas de parents. C'est un gamin de la DAS. Il a été construit par la criminalité. Il a un peu le parcours classique. Petite délinquance, grande délinquance, etc., etc. Emprisonnement, puis ensuite détruit, redétruit. Et habitué, du coup, puisqu'il est méprisé par la société, à utiliser ses mains pour s'en sortir. Il se trouve que quand il sort de prison, après avoir commis un crime très grave, il s'est juré que c'était la bonne cette fois. C'est un truc, ça, pour moi, c'est un truc assez universel. C'est pour ça que pour moi, Franck, au fond, est moins désigne moins le parcours de quelqu'un qui sortirait de prison que en fait un parcours plus universel, plus existentiel, qui nous concerne tous. C'est-à-dire ce moment où, après avoir fait tout un tas de conneries et s'être enfermé dans une prison, on s'enferme tous dans des prisons, des addictions, des relations. Après avoir tout foiré, il se dit bon, cette fois c'est la bonne, je vais devenir meilleur. Et ça, je pense que vraiment on ressent tous ce moment où on y croit sincèrement. Après, la question c'est comment. Donc je me suis en effet un peu inspiré de parcours et surtout de la langue de certaines personnes que j'avais pu rencontrer ou entendre ou lire. Mais néanmoins, j'ai vraiment voulu construire une espèce d'entité qui ne désignerait pas en fait un être carcéral, même si j'imagine que certains, et d'ailleurs j'ai été contacté par des psychologues de prison qui me disaient que c'était des profils en fait, malheureusement, auxquels ils faisaient face en fait parfois. Et voilà.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman avec Victor Dumiot qui nous parle de son dernier livre Lola va mourir, paru aux éditions Kalman Levy. On va marquer une première pause musicale. On va écouter Radiohead.
Thank you.
Bien sûr, Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Victor Dumiau qui vient nous parler de son dernier livre, Lola va mourir, paru aux éditions Calman Levy. On vient d'écouter Radiohead. Pourquoi ce morceau, d'après vous,
Victor? Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a un lien avec le livre? En fait, il se trouve que ce morceau conclut, Lola va mourir, le conclut réellement, puisqu'il y a deux fins à ce roman, sans vouloir trop dévoiler, mais... l'histoire du livre en fait est assez intéressante, l'histoire de l'écriture de ce roman qui a été compliquée, assez longue, intense et pleine de réécriture surtout. Il y a plein de versions différentes, et notamment trois manuscrits entiers très différents. Et donc j'avais, quand enfin il me semblait avoir atteint non pas le nirvana mais juste la fin, d'avoir terminé ce texte. Je voulais m'offrir un vrai moment d'écriture. J'en parlais il y a pas très longtemps, mais en fait il faut quand même se rendre compte que le travail de l'écrivain, il est très monotone, en tout cas le mien, puisque je déteste le bruit. Donc en fait je suis vraiment un fonctionnaire, je me mets à 8h30 à ma table, j'écris enfermé dans ma chambre, et puis à 20h je sors et bonjour, qui veut boire un verre, en gros. Et donc en fait, c'est vraiment une succession de journées sans rythme et parfois très vide, hein, puisque bah, bien souvent, je n'arrive pas à écrire. Enfin, il y a souvent des choses où on écrit mal, le texte nous résiste. Et donc, je voulais, pour conclure ce livre, hein, qui est symboliquement très important pour moi, je voulais m'offrir un vrai moment d'écriture. Et donc, j'ai décidé d'écrire un épilogue qui est une... sorte de pied de nez aussi à la fiction que j'avais construite, et puis une incursion dans l'autofiction, tout en la vomissant. Je voulais quand même, pour montrer à quel point l'écrivain est de mauvaise foi, je voulais faire une autofiction en vomissant de fiction. Et donc pour écrire cet épilogue, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, voilà, je vais venir ce soir, je voudrais écrire cet épilogue, conclure ce livre chez toi, là où j'avais vécu moi avec elle, et je voudrais l'écrire sur une nuit. Et donc j'avais acheté 5 bouteilles de vin. Alors, je me suis dit, bon, c'est une nuit, combien, une bouteille par heure à peu près. Et donc j'ai mis les bouteilles sur la table, et à 22h, après avoir dîné avec ma mère, je dis, bon, allez, parce que c'est assez petit chez ma mère, je dis, bon, bah, va dans ta chambre, puis moi je reste dans la cuisine, salon, et je vais écrire maintenant. Et c'était un moment absolument incroyable, en fait, d'écriture. Donc j'ai écrit cet épilogue, voilà, toute la nuit, et ça a été vraiment une capture, c'est-à-dire qu'après je ne l'ai jamais retravaillé, je ne l'ai pas relu, j'ai laissé faire des corrections, il a été coupé et un peu retravaillé par mon éditeur, mais vraiment moi je ne voulais pas le relire parce que j'avais peur de changer en fait ce que j'avais pu mettre dedans. Et je ne me souvenais pas d'ailleurs ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai écrit dans cet épilogue, je ne sais pas ce qu'il contient. Et en fait, au matin, je me souviens très bien, j'avais... À la fin, j'étais quand même assez fatigué, donc vers 3-4 heures du matin, voyant en fait la fin de l'épilogue, donc la fin de la fin approcher, j'ai commencé à écouter Radiohead. Et Radiohead, c'est assez agréable parce que en fait, il y a quelque chose de très entêtant, quelque chose de très envoûtant dans la musique de Radiohead. On peut écrire avec Radiohead, je trouve. Surtout quand, comme moi, on ne parle pas anglais, en fait, on n'est pas dérangé par les mots, donc on ne comprend rien, que c'est vraiment du charabia. C'est vraiment la musique et la voix qui se mélangent. Et donc, j'étais entraîné par ce morceau, et je l'écoutais, il y avait quelque chose de très cinématographique aussi, j'ai l'impression d'être dans un film. Je voyais très bien le début de la chanson se lancer, parce que c'est quand même Radiohead aussi, un groupe très cinématographique, et cette chanson notamment, pour conclure un film, elle est parfaite, et d'ailleurs, je me demande si on ne la retrouve pas dans Ouvre les yeux d'Amenabar, mais il me semble que si. Enfin voilà, donc j'ai conclu cet épilogue là-dessus, et je l'ai mis dans le livre.
Et donc, les paroles, comme vous avez compris le titre, tout est à sa place.
Absolument. Et alors j'ai fait des petites recherches sur ce morceau, et d'après ce que j'ai cru comprendre, Thom Yorke a écrit cette chanson qu'il a d'abord un peu trouvé ridicule parce que les paroles sont très étranges. Enfin, il y a cette histoire de citron pressé, un peu bizarroïde, mais en fait il racontait ce moment d'épuisement après une très longue tournée. Et comment est-ce que il se sentait comme en fait complètement vide et presque dépressif. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Et donc je trouvais que ça faisait sens, mais je ne l'ai su qu'après. Hein, je l'ai pas du tout choisi pour ça.
Alors revenons. Je voulais pas qu'on arrive si vite à la fin du roman, donc on va revenir un petit peu en arrière. On va rembobiner. On parlait de Franck et de Lola. Alors on le sent bien, vous essayez de le comprendre, Franck, vous avez de l'empathie pour lui, ni famille, ni reconnaissance, ni amour, rien que des traumatismes et des emmerdes. De fait, on finit par en avoir aussi de l'empathie pour lui, on le suit, on l'accompagne, on le comprend, entre guillemets, en tout cas, on le saisit. Le personnage de Lala, en revanche, demeure un mystère, une énigme. Alors le spécialiste de la psychologie féminine qu'on a vu à l'œuvre dans Acide aura-t-il trouvé ses limites?
Bah oui, c'est... En fait, c'est aussi pour ça que le livre a été très difficile à écrire. C'est que, en fait, parfois, on s'entête, on fait des choix. En fait, quand on écrit un roman, on fait des choix. Et c'est des paramètres de départ. Et voilà, il va s'écrire de cette manière, il va se raconter de cette manière. Et puis, il y a derrière ces choix une forme d'ambition aussi. Voilà, je voudrais montrer une nouvelle fois que je suis capable de raconter l'histoire d'une femme en étant dans sa tête, ce qui était le cas dans Acide. Et donc je voulais raconter Lola à partir de sa voix, de son regard, et donc entrer dans sa tête. Et les deux premières versions étaient un mélange un peu hybride de narration à la première personne dans la tête de Lola, mais ça marchait pas. Et ça marchait vraiment pas en fait. C'était très, il y avait des choses que je ne comprenais pas, que j'arrivais pas à faire passer. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce personnage m'intéressait pas. En fait, je ne prenais pas de plaisir à écrire là-dessus, sans doute parce que ce n'était pas un personnage de ma génération, sans doute parce que je ne suis pas parent non plus, et que du coup, tout ce que j'essayais d'imaginer ou de mettre dedans, ça, c'était un peu artificiel. Enfin, je sentais bien que je me servais de ce qu'on avait pu me dire, ou enfin, il me manquait en fait quelque chose de l'ordre du partage sensible, enfin, vraiment quelque chose qui me stimulerait à raconter ce personnage. Et en réalité, je pense que ce n'était pas tant le personnage qui posait problème que le. Qu'une forme de, une petite voix dans ma tête qui me disait que c'était pas le bon angle. C'est-à-dire que raconter l'histoire par les yeux de Lola, ça réduisait l'histoire en fait à quelque chose d'assez banal, malheureusement banal. C'est-à-dire à raconter une sorte de thriller avec une femme terrorisée par une brute. Et c'est mon éditrice hein, qui m'a poussé, qui m'a dit ça va pas. Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et en fait, à force de fermer des portes, une solution s'est proposée à moi. Et une solution qui était assez évidente, mais que je ne voulais pas emprunter au tout début, notamment parce que je ne voulais pas faire d'autofiction. Et donc voilà, j'ai décidé de raconter cette histoire par l'intermédiaire de ce fils. Ce qui fait qu'en effet, Lola est placée en fait, au centre de deux consciences, à la fois le bourreau, et puis le fils qui regarde, qui observe cette mère qu'il adore, mais en même temps qu'il méprise un peu, qu'il ne peut pas s'empêcher de mépriser, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Il a pour habitude de mépriser sa mère. Et c'était en fait quelque chose d'assez fascinant en fait, de faire exister ce personnage par des regards masculins. vraiment de le passer au cœur, et finalement le lecteur est un peu Lola, enfin il se retrouve piégé en fait entre ces deux hommes, et de vraiment de mettre aussi le lecteur à la place de Lola, sans qu'il y ait d'indication réelle sur ce qu'elle peut ressentir. En fait, Lola, personne ne la comprend vraiment et personne ne lui demande rien, parce que un fils ne demande rien à sa mère, c'est plutôt l'inverse. Et enfin, en tout cas, ne demande pas cet état d'âme, on demande rarement. Et Franck, pareil, n'a pas l'habitude, c'est pas un fin psychologue, Franck.
Oui, fait dire à son fils, la vérité, c'est que ma mère était prisonnière de cette idée que d'être femme, c'est aimer, et qu'on aime toujours de façon absolue. Ma mère a tout accepté, alors même qu'elle voulait vivre. C'est peut-être ça qui demeure incompréhensible, en fait.
En fait, c'est alors non seulement, enfin, je ne sais pas à quel point c'est incompréhensible, mais en tout cas, le fait de raconter Lola par l'intermédiaire d'un garçon, c'était aussi une manière pour moi d'écrire aussi sur ce que je commençais à comprendre en fait de la problématique des relations homme-femme entre guillemets. Et de ce qui dans l'éducation avait complètement foiré en fait, et je réalise, et je pense que enfin c'est quelque chose d'assez évident, mais on apprend en effet beaucoup aux femmes à aimer à l'absolu, à être très empathique, à l'écoute et à bien se remettre en question. C'est très important de se remettre en question quand on est une femme. Aux hommes en revanche, on leur apprend à être dans l'action et en fait à finalement très peu se remettre en question, ou à se remettre en question mais un tout petit peu, enfin provisoirement quoi, à s'excuser, pourquoi pas à s'excuser, et attention avec modération. Et en effet ce piège de l'empathie chez une femme, en l'occurrence chez Lola, la conduit dans cette situation en fait de passivité absolue quoi. C'est qu'en fait elle est tellement empathique qu'elle a perdu sa vie, elle en perd sa vie.
Et vous faites dire encore à son fils, j'étais incapable en ce temps-là de mesurer la force de ma mère. Ma mère n'était pas trop branchée violence. Sa force, c'était de comprendre chacun et de pardonner à tout le monde. Il n'y a qu'à elle qu'elle ne pardonnait rien.
Oui, c'est en fait deux éléments de réponse. Déjà, en fait, c'est très étrange. Enfin, je pense que chaque enfant pourrait essayer de faire le portrait, chaque enfant que nous sommes, faire le portrait de ses parents. C'est très étrange en fait de brosser le portrait de ses parents, parce que évidemment, il y a plein de choses qu'on comprend pas en fait chez eux. On a beau chercher ou les écouter ou il y a des choses, déjà la mémoire transforme hein, beaucoup de faits, et quand on recoupe des versions, moi c'est ce qui m'est arrivé en faisant un peu un travail d'enquête familiale, en écoutant les versions de chacun, je me rendais compte que en fait le réel s'était tordu, que en fait le réel avait disparu d'une certaine manière, et qu'il ne restait plus que des versions qui s'affrontaient, et la vérité elle était vraiment située dans des zones très très troubles et en fait très subjectives aussi, parce qu'il y a des moments dans la vie où la vérité elle est subjective. Et c'est comme ça, elle ne peut qu'être subjective. Un même événement n'est absolument pas appréhendé de la même manière, de la même intensité par deux êtres. Et donc, brosser le portrait de ses parents, c'est un exercice très, très étrange, mais passionnant. Et puis qui nous fait, là pour le coup, nous remettre aussi en question, enfin, qui nous montre que ces grands êtres qui nous ont éduqués sont aussi des êtres très fragiles, faillibles. Et de mesurer leur faillibilité, c'est aussi vertigineux, parce que je pense que quand on est enfant, on ne la mesure absolument pas. Enfin, il ne nous la laisse très peu percevoir cette dimension faillible. Et justement, en fait, dans la réécriture de Lola, moi, ce qui l'a motivé, c'était de m'emparer de tout ce qui rendait Lola incompréhensible, toutes ces cassures dans le récit me semblaient être le cœur en fait de l'histoire. Tous ces choix qu'elle fait, qu'on ne peut pas comprendre, me semble être le cœur de cette histoire. Et évidemment, la question de la culpabilité, je change complètement de sujet, mais la question de la culpabilité dont fait état le fils, Arthur, rejoint la question de l'empathie. J'ai l'impression aussi que cette culpabilité, c'est-à-dire le fait de se sentir toujours indigne, toujours... encore une fois, ça revient à se remettre en question sans cesse. C'est-à-dire que Lola, c'est une mère qui réinterroge sans cesse son statut de mère, qui ne se sent pas, qui ne se sent jamais bonne mère, et qui donc hésite beaucoup en fait. En même temps qu'elle est très décidée, elle hésite beaucoup, elle n'est pas certaine que ce qu'elle fait est bon. Ce qui fait qu'elle écoute beaucoup les gens. Et quand elle écoute les gens, en fait, les gens lui racontent n'importe quoi.
Alors, on est effaré et puis on est effrayé par la trajectoire catastrophique de Lola. Et pourtant, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, ce n'est pas un brûlot féministe, ce n'est pas le énième ouvrage sur l'emprise. Vous avez voulu atteindre quelque chose de plus fondamental, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit de plus universel. C'est presque une métaphysique de la domination que vous avez cherché à écrire.
J'adore cette expression. C'est pas un livre sur l'emprise, parce qu'en fait, la relation entre... En fait, Lola, quand elle voit Franck, elle le trouve moche. Elle le trouve grossier. Je veux dire, en fait, il est juste bizarre. Mais comme elle aime les êtres bizarres et qu'elle sait, elle a intériorisé le fait qu'elle était elle-même bizarre, elle a une forme de curiosité pour ce type qui lui semble vraiment sorti d'un autre monde, ce qui est vrai. Et très rapidement, elle se rend compte qu'il n'y a absolument pas moyen que la vie se poursuive avec Franck. En gros, elle l'utilise comme un sextoy pendant quelques semaines. Elle couche avec lui et ça lui fait du bien, ça lui permet de reprendre un peu confiance en elle, de sentir qu'elle repossède en fait les moyens de son existence. Que non seulement elle va pouvoir, si elle veut, retrouver un homme, mais si elle veut, et qu'elle va aussi pouvoir dire aux hommes, écoute, maintenant, tu me plais plus, tu m'emmerdes en gros, et basta, on s'arrête là. Et en fait, c'est ce malentendu-là qui génère la catastrophe à venir. Parce que Franck, lui, considère qu'une femme qui couche avec lui, une femme normale, c'est qu'elle veut l'épouser, elle veut des enfants, elle veut autre chose, elle ne peut surtout pas l'utiliser comme un sextoy.
Et pour lui, c'est surtout sa dernière chance. Il pense qu'il va être sauvé par l'amour.
Et il pense qu'il va être sauvé par l'amour et que Lola, en plus, est l'incarnation de cet amour. Et donc, il n'est absolument pas prêt à la perdre. Il veut la convaincre qu'elle a fait un mauvais choix. En voulant le quitter. Donc c'est pas un roman d'emprise, c'est pas un roman non plus sur les violences conjugales, même si je crois qu'à la fin, et c'est un peu ce que je voulais par moment laisser pressentir, il me semble que dans cette espèce de huis clos, c'est-à-dire que la domination devient de plus en plus enfermante et se finit en huis clos, s'achève en huis clos, il y avait quand même en transparence, pour moi en fait, le dispositif tragique d'un couple qui ne sait plus pourquoi mari et femme vivent ensemble, mari et femme ou femme et mari et mari, mais pourquoi ces gens-là vivent ensemble, qui continuent de vivoter dans une forme de mépris collectif, de violence collective. Moi, j'en ai vu tellement, en fait, des familles. C'est vraiment une énigme, en fait, et c'est ce qui me semble très dur aujourd'hui dans la construction d'un couple ou d'une histoire amoureuse. C'est que je trouve que les modèles familiaux dont nous disposons tous sont horribles. Soit ils sont complètement éclatés, et à ce moment-là, c'est baila la vida et chacun... Et c'est souvent des modèles qui servent les hommes, hein, d'ailleurs, parce que souvent, dans les modèles de couple éclatés, en fait, l'homme s'en sort plutôt pas mal et la femme... moins bien. Alors c'est moins le cas maintenant, mais
elle a souvent les gamins,
hein. Elle a souvent les gamins, et puis elle a du mal à, parce qu'en fait une mère célibataire, elle va avoir du mal à retrouver un emploi, une bonne situation, un mari, etc. si elle le veut, encore une fois. Peut-être qu'elle est aussi dégoûtée par les hommes, et je pourrais la comprendre. Ou alors des familles concentriques, et à ce moment-là c'est aussi l'enfer. C'est-à-dire que vraiment des gens qui se sont en quelque sorte rabougris, recroquevillés les uns sur les autres, qui se méprisent, se détestent, passent leur temps à se disputer, à pleurer, à ne plus vivre ou à vivoter ensemble, et à être dans un rapport très brutal, complètement dépassionné, complètement mécanique, dans une mécanique du quotidien. C'est terrible, en fait. Je trouve que en fait, cette vision d'ensemble, c'est-à-dire le choix en fait, entre la réponse A ou la réponse B, c'est vraiment la peste ou le choléra. Et c'est très compliqué, en fait, ensuite, de construire sa propre relation en se disant, bon, sayonara, j'utilise beaucoup d'expressions aujourd'hui, je vais tenter quand même l'aventure. Et on tente tous, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, malgré toutes les histoires tragiques qu'on nous propose, on les tente tous. Donc voilà, je voulais raconter un peu aussi cette manière dont le couple pouvait, malheureusement, parfois, se transformer en prise d'otage, et affective, économique, physique. Là, en l'occurrence, c'est une prise d'otage plutôt physique.
C'est toujours sur l'IGFM 93.1, dans l'émission La vie est un roman, en présence de Victor Dumiau, qui nous parle de son livre Lola va mourir, et on va marquer une seconde pause musicale. toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman avec Victor Dumiau qui nous parle de Lola va mourir, son dernier roman paru chez Kalman Levy. Alors, il y a quelque chose de chrétien finalement dans votre livre, dans le sens où vous ne vous contentez pas de dénoncer le mal de l'extérieur, mais que vous l'assumez, vous le prenez sur vous, vous acceptez de prendre les péchés des hommes sur vous d'une certaine manière. Alors, est-ce que la violence, c'est votre croix ?
Alors, c'est la première fois qu'on me compare avec le Christ, mais j'en suis touché. En fait, il y a quelque chose de chrétien, et ça me fait plaisir qu'on puisse en parler, parce que, en fait, je ne suis pas chrétien. Je suis complètement athée, je n'ai aucune éducation religieuse. Mon père a toujours refusé de me faire entrer dans une église, et c'était quelque chose d'assez... c'était un athée, un activiste athée, comme on peut les connaître en France. Et je n'ai jamais lu la Bible. Enfin, vraiment, j'ai une culture religieuse qui est... Je le regrette. J'ai en projet de lire la Bible. J'ai lu des passages, évidemment, quand même, comme tout bon français qui se respecte. Mais c'est une blague, bien sûr. Mais néanmoins, voilà, évidemment, la thématique de la rédemption, de l'innocence. En fait, moi, j'ai l'impression que ce que je... Et c'est même un mot qui revient très souvent chez moi. Ces questions de pureté et d'innocence et de rédemption, ces choses qui me travaillent beaucoup. Encore une fois, je pense que c'est très lié à l'irruption de la violence dans ma vie, à l'impression qu'on m'a ôté en fait mon innocence, et que quand je crois la repérer ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que d'être innocent. Je n'ai jamais été innocent, j'ai toujours été un peu roublard. On m'a très vite appris à mentir, donc j'ai très vite menti. Je suis un artisan du mensonge, et le roman est devenu une manière, en fait, sans doute, de me délester de cette volonté de mentir, enfin de cette habitude à mentir, ce réflexe au mensonge. Et donc voilà, j'ai jamais vraiment éprouvé cette innocence-là, et donc je crois que je la cherche un peu chez les autres et chez mes personnages en particulier. J'essaie de la recréer, y compris dans des situations de violence. C'est pour ça que le travail sur Franck a été très intéressant. Et il est, en fait, c'est souvent la même chose. Hein. Pour Julien, c'était pareil dans Acide. C'est par couche. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des créatures, des monstres. Pour le coup, vraiment des monstres. C'est-à-dire qu'ils sont juste effrayants. Et ils sont regardés un peu comme s'ils devenaient dangereux, donc un peu de loin. Et puis progressivement, je leur rajoute des couches, un peu comme un peintre. Je vais jouer avec la lumière, en fait, sur eux, et je vais essayer de les modeler pour leur donner vraiment une humanité. En fait, je vais leur donner un peu de moi, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une connexion très bizarre qui se fait, et c'est ce que je raconte dans l'épilogue, entre ces personnages de monstres, de méchants, disons plutôt, et moi-même. D'un coup, je viens partager quelque chose avec eux. Alors, c'est peut-être ma manière de porter la violence sur mon dos, mais je crois surtout que c'est ma manière de me réconforter, de me rassurer, de me dire que, en fait, le monde n'est pas que violence, ni que peuplé d'individus mauvais, qu'il y a toujours une toute petite espérance, et qu'en fait, dans tous les cas, on n'a pas le choix que de garder cette espérance-là, que les gens pourront devenir meilleurs.
Alors, vous employez effectivement de plus en plus souvent un langage religieux, hein, vous parlez de rachat, de rédemption. On peut dire dans votre roman que Franck, quelque part, est passé de l'autre côté de la société, que Lola est passée de l'autre côté de sa vie. Et quand est-ce que l'écrivain passe de l'autre côté du miroir ? Lui aussi.
De l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ?
Vous l'écrivez dans votre livre, en fait.
Oui.
À un moment, Franck a un ami qu'il aurait mieux fait de ne plus fréquenter, qui lui dit, nous, une fois qu'on est entré dans le crime, on est passé de l'autre côté de la société, on est passé de l'autre côté du miroir. Comme si, en fait, tout ce que la société ne voulait pas voir, eux, ils y avaient accès. C'est-à-dire que le monde des illusions est déchiré, le voile est déchiré. Lola, d'une certaine manière, à un moment, accepte de passer complètement de l'autre côté de sa vie, et elle lui échappe et elle la laisse partir, et quelque part, peut-être qu'elle trouve un point de vue là-dedans, en tout cas une vérité. Et je me demandais, quand est-ce que l'écrivain procédait du même déchirement ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de commun entre les trois ? Ma question peut-être trop...
Non, c'est la question. C'est une excellente question, Frédéric, comme toujours. C'est en fait un peu tout le temps, enfin, ou en tout cas par phase, et c'est ce qui rend l'expérience de l'écriture aussi, en tout cas à mon sens, aussi éprouvante. C'est qu'en effet, très souvent, la vie nous échappe. Et on est obligé d'ailleurs de la laisser nous échapper. Alors, je ne parle pas d'aller chercher à pousser les limites, ses limites au maximum. On va faire l'expérience des limites. Enfin, je ne crois pas forcément au mythe de l'écrivain débauché qui va chercher là-dedans. Je pense qu'en fait, l'écrivain est un peu fou. Quoi qu'il arrive, en fait, qu'il aille se débaucher dans des bouges ou qu'il reste dans son bureau et s'endorme à 21h30, il est fou en fait de le faire. L'écriture, c'est vraiment un art qui a trait avec une forme de folie et de désespoir aussi et de solitude et d'assèchement et en même temps de vitalité, d'expansion intérieure. Il y a quelque chose de très fort qui se produit, et en effet, moi je me souviens régulièrement pendant l'écriture de Lola, je vivais avec quelqu'un et c'était évidemment très, ça a été très rude pour cette personne parce que moi je vivais enfermé, et quand je me libérais enfin, après avoir passé une bonne ou une mauvaise journée, et surtout n'avoir rien à raconter, c'est-à-dire que je sortais de ce bureau, j'avais rien à raconter à part j'ai écrit une page sur Franck, mais je peux pas t'en dire plus. Et c'est très dur, et en étant en plus extrêmement fatigué, en fait, parce que c'est aussi ça, quand on parle de passer de l'autre côté du miroir, je pense que, en fait, moi je vais vous dire, je casse un ordinateur par roman. Parce que je tape très fort mes mots, et notamment dans les moments d'intensité, on va dire, je tape mon clavier, je tape et je joue en fait les scènes, et je les répète à l'infini, et donc je casse mon clavier. Je casse pas l'ordinateur, je casse mon clavier. Là, en l'occurrence, je n'ai plus de... Mon clavier dysfonctionne. Donc voilà, c'est vraiment... En fait, cette chose-là, en fait, ce qui nous traverse, je trouve, qui fait qu'on écrit, au fond. Enfin, moi, je pense que vraiment, j'écris uniquement pour ressentir ces choses-là, cette espèce de traversée électrique d'une vie qui nous échappe, qui vient d'ailleurs et qui, en fait, d'un coup, nous fait oublier notre propre existence, notre propre solitude qui nous renverse. C'est vraiment l'éclatement des limites, là, pour le coup, tout en étant dans une petite pièce. Donc, c'est quand même assez, assez rentable comme expérience. Mais néanmoins, c'est très dur pour les autres. Et c'est vraiment... je pense que le plus dur, ce sont les gens qui nous accompagnent là-dedans. Alors après, évidemment, on se discipline et on apprend à faire avec les autres. En tout cas, on essaie. Mais voilà.
On a écouté tout à l'heure Underworld, Born Sleepy. Donc c'est un morceau qui a été très connu parce que ça a été la BO du film Trainspotting. Il y a deux références de cinéma. En tout cas, j'ai relevé deux références de cinéma dans votre livre. C'est Trainspotting et Fight Club. On parlait de Marla. Et ces deux films parlent de ça, en fait, de passer de l'autre côté. En tout cas, de refuser tout ce que la société propose.
Oui, bien sûr.
Et à quel point l'écrivain participe du même basculement ? Alors, vous venez d'en parler, mais ma question maintenant, c'est quoi le prix à payer ?
C'est d'être célibataire. Non, je plaisante. Mais non, mais alors, non seulement ces deux films parlent beaucoup passer de l'autre côté, etc., mais ils parlent aussi, surtout, et je pense que c'est aussi pour ça que je les ai mentionnés, ils parlent de marginaux. De gens qui, en effet, vous le disiez, n'ont pas trouvé leur place dans la société et donc cherchent à trouver une place. Cherchent leur place.
Pour Trainspotting, je suis d'accord, mais pour Fight Club, c'est Cornelius ou Rupert, je sais pas comment, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle. Ouais. C'est un employé d'assurance automobile qui a une vie tout à fait banale, donc c'est pas du tout marginal.
Oui, bien sûr, oui, mais il se marginalise.
Oui.
Et en fait, il va trouver sa place dans la marginalisation.
C'est vrai.
Et c'est aussi ça, moi, qui m'intéresse, que je pense que ce qui explique que Lola et Franck se rencontrent et s'entendent, c'est parce que tous les deux, en fait, se sentent comme des marginaux. Franck, à qui on a dit « tu peux sortir de prison, tu es libre, bravo, tu as purgé ta peine », se rend bien compte que la société n'est pas du tout prête à l'accueillir et qu'elle va être violente, elle va être brutale, elle va continuer de lui faire payer son crime, alors même qu'il a passé plus de 15 ans derrière les barreaux. Et Lola, pareil, on la considère comme une criminelle. C'est une mère qui a abandonné sa famille.
Alors, vous faites dire à l'enfant dans le roman « Je suis nostalgique d'une certaine idée de l'enfance. Pour moi, la famille, c'est la douleur. La douleur, et la déception. Je n'ai pas de chez moi, et même si je finissais par en avoir un, par regoûter à la version familiale des fêtes de fin d'année, je serais encore seul, je fuirais. La vie m'a rendu craintif et pessimiste, et comme j'envisage en tout le pire, la tentation de gâcher par anticipation est grande. La solitude, ce n'est pas un état passager, c'est une condition d'existence.
Il y a une question derrière ça
ou non, un commentaire. Vous dites ce que vous voulez.
Oui. Alors, c'est dans ces moments-là, peut-être. En tout cas, c'est un personnage qui parle. Peut-être qu'il y a un lien entre l'auteur et le personnage. En tout cas, pour ma part, si je veux m'exprimer sur mon rapport à la famille, il est vrai que j'ai un rapport très complexe à la famille. J'ai coupé les ponts avec ma famille, en fait, pour le dire clairement. Je ne parle plus à ma quasi-totalité de ma famille, à part mes parents et mon petit frère, que j'aime infiniment. En fait, je n'aime pas la famille. Et en même temps, elle me fascine. J'adore la famille des autres, par exemple. J'adore, dès que je suis un peu un mendiant familial, dès que je sens que je peux rentrer dans une famille, je m'introduis et j'adore ça, en fait, la famille des autres. Sans doute parce que, du coup, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas sa violence et qu'elle me paraît, en fait, chaleureuse. Parce que quand on rentre dans une famille, dans la maison des autres, ça a l'air toujours très chaleureux. Et puis, quand on gratte, évidemment, après, on se rend compte que c'est toujours le même enfer. Mais oui, en tout cas pour ma part je me méfie de la famille. J'ai une grande peur à fonder une famille, à construire une famille. J'ai très souvent gâché les possibilités de faire famille et je crois que ce problème vient notamment du fait que je porte comme une espèce de carapace ma solitude. C'est quelque chose sur lequel je travaille, qui se désamorce, qui se déconstruit. Mais néanmoins qui à mon avis est lié encore une fois à la question de la violence, c'est-à-dire que quand on a passé une partie de sa vie à apprendre qu'il fallait survivre, on finit par vivre comme un être isolé, comme une île. Moi j'ai longtemps été une île.
Merci beaucoup Victor Dumiau d'être venu nous parler de Lola va mourir, paru aux éditions Kalman Levy. C'est un excellent roman qui marque la rentrée littéraire. On n'est pas forcément à l'affût de tous des événements, des publicités, des rentrées littéraires, mais là, pour le coup, ça vaut la peine de s'y pencher. Merci beaucoup à René Clancy qui a assuré la régie. Merci pour René. Le mouvement de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Pour notre part, on se retrouve mardi prochain pour recevoir Jean Felzine, l'ancien leader de Mustang. Et voilà, à très bientôt.